Sur ce sentiment inconnu, dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à apposer le nom,
désespoir.
Le beau nom grave de tristesse.
Vous vous rendez compte de votre état ?
La mélancolie.
Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie ?
Remède.
Ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent.
À la mélancolie. Eva Bester.
Appelez-moi docteur.
Bienvenue dans cette émission préparée par Laure Grand Besançon et Camille Groc, réalisée par Eliane Girard et mise en musique par Muriel Pérez. Aujourd'hui à la technique, Kevin Pelot. La gourmandise de ce matin, c'est le splinétique Monsieur Follentin, solitaire inadapté inventé par Huysmans dans la nouvelle Avolo publiée en 1882. Cet attachant désenchanté essaie, par intermittence et en vain, d'habiter le monde et sa société, mais vérifie continuellement l'impossibilité d'y adhérer. Je vous lis un passage décrivant des sensations qui vous sont peut-être familières. Il embrassa d'un coup d'œil l'horizon désolé de la vie. Il comprit l'inutilité des changements de route, la stérilité des élans et des efforts. Il faut se laisser aller à volo. Schopenhauer a raison, se dit-il. La vie de l'homme aussi comme un pendule entre la douleur et l'ennui. Aussi n'est-ce point la peine de tenter d'accélérer ou de retarder la marche du balancier. Il n'y a qu'à se croiser les bras et à tâcher de dormir. Je vous ai mis dans l'ambiance. Attention, voici la présentation de l'invité. Auteur, compositeur et interprète littéraire, notre apothicaire de l'âme a la réputation d'être aussi drôle dans la vie qu'il est mélancolique dans ses textes. J'ai longtemps cru qu'il était impossible pour un fils d'institutrice et de cadre de la SNCF élevé à Besançon et sans réseau d'entrer dans ce milieu, dira celui qui commence tôt le piano et fait du chant dans une chorale. À 18 ans, il intègre Sciences Po, crée des spectacles musicaux avec la compagnie Les Matelas à Ressort, puis compose des bandes originales et des chansons pour son ami le réalisateur Christophe Honoré. C'est ce dernier qui le pousse à faire un premier concert chez lui devant des copains. Mais notre apothicaire attendra 2001 pour oser chanter lui-même ses compositions. En 2005 paraît son premier album, Garçon d'honneur. En 2007, il est couronné du César de la meilleure musique originale pour le film Les chansons d'amour d'Honoré, inspiré en partie de son histoire personnelle. Suivront de nombreux autres albums, sensibles et compositions pour le cinéma. Chanteur préféré de François Hollande, pardon, je n'ai pas pu résister, utilisera la version instrumentale de son morceau au départ comme hymne de sa campagne présidentielle de 2012. L'humble refuse de jouer à la Bastille le soir du second tour, jugeant que ce n'est pas la place d'un artiste. Plus tard, il refusera également d'être chevalier des arts et des lettres. Il n'est au service que d'un seul pouvoir, celui de la muse Euterpe, protectrice de la musique. Ses collaborations artistiques sont trop nombreuses pour être toutes citées. Voici quelques noms qui ont travaillé avec lui: Julien Clerc, Fanny Ardant, Françoise Fabian, Charles Aznavour, Vincent Delerme, Dominica ou encore Jean-Claude Carrière. Je ne peux pas parler plus vite, j'arrête là. Bonjour Alex Beaupin.
Bonjour, waouh, c'est impressionnant.
Alex Beaupin, vous, dont l'univers musical est dominé, même s'il y a des rythmes entraînants dans vos compositions, mais est dominé par la mélancolie. Première question, quel est votre rapport à la mélancolie ? Et y a-t-il eu un événement fondateur ? Évidemment, cette question est biaisée puisque j'ai lu plusieurs de vos interviews.
Ouais, j'ai un rapport assez fort, effectivement, à la mélancolie. Moi, c'est ce que je préfère, les chansons mélancoliques, c'est celles que je préfère. Et mélancolique, pas nostalgique, hein, c'est pas tout à fait la même chose, parce que de temps en temps, on a tendance à mélanger les deux concepts. Dans la mélancolie, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une tristesse douce, que moi, je trouve assez agréable, et qui dit des choses. Effectivement, on parlait de ma biographie. Moi, j'ai vécu une expérience de deuil assez tôt, qui a nourri une grande partie de mes chansons. J'essaie de m'en détacher un peu maintenant, parce qu'au bout d'un moment, ça peut pas être une espèce de moyen d'écrire des choses. Enfin, au bout d'un moment, on s'épuise si on écrit que là-dessus. Mais effectivement, peut-être à cause de cette expérience de deuil, mais même avant, je crois que j'étais déjà un enfant assez mélancolique et que c'est un sentiment que je trouve plus doux et plus agréable qu'on peut l'imaginer en réalité, la mélancolie. Pour ça, vous appelez ça remède à la mélancolie, mais tous vos invités doivent vous le dire. De toute façon, est-ce qu'on a vraiment besoin de trouver des remèdes contre la mélancolie ?
Je pense des remèdes éphémères pour ne pas se défenestrer, parfois, c'est utile.
Vrai que c'est pas idiot.
Alex Beaupin, vous dites dans une interview « Je suis plus mélancolique qu'avant, mais la vérité c'est que je suis très heureux dans ma vie, plus aujourd'hui qu'il y a 10 ans ». Ça c'était en 2016.
Je suis heureux parce que... Je suis heureux parce que j'ai, non pas parce que j'ai accompli des choses, j'ai pas cette prétention-là, mais parce que je fais aujourd'hui exactement ce que je voulais faire à 8 ans. Et vous l'avez rappelé, moi j'avais l'impression que c'était pas possible pour moi d'accéder à ces métiers-là. Moi, la chanson, c'est vraiment ce que je préfère au monde. Il y a plein d'autres choses que j'aime. J'aime lire, j'aime aller au cinéma. Mais la chanson, c'est vraiment, quand j'ai découvert assez tôt, parce que ma mère nous chantait des chansons, les chansons, j'ai su que c'était ça que, non pas que je voulais faire, mais que j'allais adorer toute ma vie. Et donc, j'étais très, très désespéré par le fait de me dire que c'était impossible pour moi d'accéder à une carrière de chanteur. Et donc maintenant que j'y suis un peu arrivé et que je travaille avec des gens que j'ai admirés, et ouais, j'essaie de, sans être un ravi de la crèche, j'essaie de pas être blasé, disons. Et j'essaie de constamment m'émerveiller. Je sais pas, là, je vais faire un Olympia, je trouve ça extraordinaire. C'est la deuxième fois que je vais faire l'Olympia, je trouve ça extraordinaire. J'essaie de me remettre à la place de, alors c'est un peu niais, de l'enfant que j'étais quand j'avais 10 ans, et de me dire que quand même, il serait bien épaté par celui que je suis devenu à 44 ans.
On mettra de toute façon la date sur le site internet de l'Olympia, je le dirai à la fin de l'émission, je crée un suspense insoutenable. Mais j'annonce d'abord le sommaire. Alex Baupin, vous allez convoquer dans quelques instants Bill Murray, Le Désenchantement, Le Plaisir Charnel, Certains L'aiment Chaud, John Irving, Aladdin, le duo Chagrin d'Amour, La Tour Eiffel, Edward Hopper et un gratin de coquillettes juste après un titre de votre prochain album qui sortira à l'automne, qui s'appellera Pas plus le jour que la nuit, et le morceau c'est Cours camarade, celui qui est sorti.
Camarade, le vieux monde est derrière toi. Les barricades, les voltigeurs et puis quoi. Cours, camarade, les épaves de pavés. Les bousculades, les cocktails et puis après. Cours, camarade, le vieux monde sent la poussière. Dernière ruade, et on l'enterre à Nanterre. Camarade, redis-nous ton beau discours sur ton estrade, le poing levé, le cœur lourd. Camarade, le vieux monde reprend son souffle. Quelques décades et tu rentres dans ses pantoufles. Cours, camarade, tes affiches et tes slogans, comme tu les brades pour vendre des brosses à dents. Cours, camarade, le vieux monde t'a rattrapé. Il est malade, tout prêt à agoniser. Cours, camarade, comme tu en crèves avec lui. T'as des bandades comme on en crève aujourd'hui.
Remède à la mélancolie sur France Inter en compagnie d'Alex Baupin, dont on vient d'entendre le titre Cours camarade. Et nous sommes aussi en compagnie d'un homme qui revit tous les jours la même journée. Voici plusieurs de ses tentatives de séduction d'une même femme.
Je trouve que les gens accordent beaucoup trop d'importance à leur réussite. J'aimerais qu'on vive tous à la montagne, en haute altitude. D'ailleurs, je m'y verrai bien dans 5 ans. Qu'en penses-tu ?
Oh, je suis d'accord. J'aime laisser faire les choses, voir où ça m'amène.
Ça t'amène ici.
À 2-3 millions de kilomètres de ma formation d'origine.
Tu ne pensais pas à la télévision ou au journalisme ?
Crois-le ou pas, j'étudiais la poésie italienne du 19e siècle.
T'avais vraiment du temps à perdre. Je veux dire, pour n'importe qui, ce serait vraiment une perte de temps. C'était vraiment audacieux de choisir ça. C'est incroyable. Tu dois vraiment avoir un courage à toute épreuve. Je trouve que les gens accordent trop d'importance à la réussite. Non, j'aimerais qu'on vive tous à la montagne, en haute altitude. D'ailleurs, je m'y verrais bien dans 5 ans. Qu'en penses-tu ?
Oh, je suis d'accord. J'aime laisser faire les choses. Et voir où ça m'amène.
Eh bien, ça t'a amené ici ?
À 2-3 millions de kilomètres de ma formation d'origine.
Ah oui ? T'étudiais pas la télévision ou le journalisme en ce temps-là ?
Crois-le ou pas, j'étudiais la poésie italienne du 19e siècle.
Al vento qual piuma. La donna è mobile. Leggiadro viso. I piatto. E di pensiero.
Mais tu parles italien ?
Oh si.
1993, un jour sans fin d'Harold Ramis avec Bill Murray et la sublime Andie McDowell. Alex Baupin, vous nous avez donné le choix entre les scènes de suicide ou les scènes enchaînées de séduction. On entend le second. Et je ne sais pas si vous le savez, mais l'acteur qui double Bill Murray en français, c'est l'acteur qui chante Prince Ali dans Aladdin, dont on va
c'est
parler
Darbois.
Tout à l'heure. Exactement.
Oh, génial. Non, je ne savais pas. Je savais que Darbois doublait, il a doublé Harrison Ford aussi, mais doublait effectivement le génie dans... Mais je ne savais pas. Génial. Ben, voilà, il n'y a pas de hasard.
Non, une cohérence. Quoi,
les choses qui me réconfortent, il y a peut-être cette voix derrière qui me réconforte aussi un peu. Je trouve le film... j'ai choisi ça comme remède à la mélancolie. On est d'accord que j'ai pas choisi mes trucs préférés, mais les choses qui, parfois, me permettaient de me remonter le moral ou me réconfortaient, voilà. Je trouve que c'est un film parfait, en fait. C'est une comédie parfaite. C'est très très rare, des comédies parfaites. C'est-à-dire que on a l'impression que Harold Ramis, je sais plus s'il a écrit le scénario seul ou pas, mais peu importe.
Non, à deux.
C'est ça, hein, ça m'étonne pas qu'il ait fait ça avec quelqu'un.
Danny Rubin.
Ok, on a l'impression qu'il, partant d'un sujet, il épuise toutes les possibilités du sujet en fait. C'est pour ça que je mettais en parallèle, je proposais effectivement soit les scènes de suicide quand il est désespéré, soit les scènes de tentative de séduction d'Andy McDowell. C'est ce genre de comédie américaine en plus qui, il épuise tout le sujet et en plus il y a un but à tout ça évidemment, c'est que l'acariâtre Bill Murray devienne le type bien qu'il est à la fin. Donc il y a quelque chose de très réconfortant, presque à la Capra, hein, pas de niais, mais de très idéaliste là-dedans qui moi me plaît. Et puis le fait aussi que ça se passe dans une petite ville qui a un aspect monographique dans tout ça, je trouve que ça donne quelque chose de très réconfortant. Vous voyez ce que je veux dire ? Des personnages qu'on retrouve, un endroit qu'on finit par reconnaître. Quelque chose comme ça qui est un peu, qui dans ce film, je trouve est... Alors moi, je l'ai beaucoup vu, donc à un moment donné, j'ai arrêté de le regarder. Mais je vais peut-être le revoir. Ça fait peut-être au moins 2 ans ou 3 ans que je ne l'ai pas vu. Peut-être que je vais revoir ça, parce qu'à chaque fois, ça fonctionne avec moi, en tout cas.
Que feriez-vous, Alex Baupin, si vous étiez sûr de recommencer la même journée indéfiniment ?
Ah, c'est une vraie question, ça. Je pense que je serais très très manipulateur comme il peut l'être. Le moment où il vole de l'argent, par exemple, enfin où il dévalise un camion de convoyeur de fonds parce qu'il sait exactement à quel moment il y en a un qui va se baisser pour prendre. Voilà, je trouve ça génial. Puis non, l'idée la plus géniale dedans, c'est quand il se met à apprendre le piano. C'est-à-dire qu'on le voit au début et il joue à peine sur deux doigts et puis à la fin il est dans une espèce de fête de la ville et il joue hyper bien, à titre de Little Richard peut-être ou je sais pas quoi. Alors ça, apprendre un instrument, apprendre à faire quelque chose parce qu'on a le luxe du temps, je trouve ça merveilleux.
Enfin, l'occasion de passer Désenchanté de Mylène Farmer dans cette émission.
Là, vous m'avez
bien surpris.
Oui, parce
que ce n'est pas un de vos choix, Alex Baupin. On vous a demandé une idée anti-spline, vous avez eu cette réponse. Hélas, je n'en ai pas. Génération Désenchantée. Aucune idée n'est pour vous un appui ?
Non, vous parlez d'idéologie, de religion, etc.
Non, d'idée, simplement.
Je crains que non, en fait.
La mort ?
Non,
ça peut être une consolation, puisqu'on peut se dire qu'il y a une fin.
Non, la mort, ça peut être une impulsion, effectivement. L'idée de savoir qu'on va mourir et de ne croire en rien peut permettre de vivre plus pleinement les choses, peut-être. Ça, voilà, peut-être que j'aurais ça. Mais même ça, honnêtement, mais on est d'une génération où, génération désenchantée, ça me fait rire. On est d'une génération où, politiquement, on est arrivé après la désillusion de l'arrivée de la gauche au pouvoir, enfin. Dans cette espèce de génération sida d'entre deux, peut-être que les gens qui sont plus jeunes que nous, qu'on appelle les millennials, ils ont d'autres choses à quoi s'accrocher, d'autres idéaux, mais moi j'ai l'impression de faire partie effectivement d'une génération particulièrement désenchantée, comme le chantait Mylène Gauthier, alias Mylène Farmer, c'est vrai.
Et comme vous le chantez, vous, Alex Baupin, dans Cours Camarade, dans Quarantaine, il y a quand même cette idée qui revient.
Ouais, mais ça m'agace, en fait. Maintenant que j'y pense, ça m'agace, parce que j'aimerais bien, vous comprenez. Puis, si je suis tout à fait franc, évidemment que j'ai non pas des idéaux, mais des idées, ne serait-ce qu'un peu politiques. Mais alors, dire mon idée politique, c'est la social-démocratie, vous voyez comment c'est glamour, quoi. Moi, j'aimais bien Rocard à 16 ans. Enfin, c'est vraiment, c'est atroce quand on veut être un peu chanteur et un peu lyrique. C'est quand même le truc le plus terrible à avancer comme, et puis même, ça m'enthousiasme pas à ce point-là, quoi, quand j'y pense.
Et justement, avez-vous malgré tout, puisque quand on est désenchanté, a-t-on de l'enthousiasme pour quelque chose ? On est obligé d'en avoir quand on crée une œuvre.
Oui, oui, moi j'ai de l'enthousiasme pour la création, évidemment, pour celle des autres, pour la mienne, pour ce que je fais. Moi je suis très content quand... Moi j'ai choisi une forme de paresseux qui est la chanson, c'est-à-dire que c'est une forme un peu courte et à chaque fois que je finis une chanson, et comme c'est des petites choses de 4 minutes, ça arrive quand même plus souvent que quand on finit un roman, vous voyez ce que je veux dire ? À chaque fois j'ai une espèce d'enthousiasme, bien sûr, que j'ai essayé de conserver. Je trouve ça formidable de finir un album, de finir une chanson, de finir un spectacle, enfin voilà, tout ça. Non mais tout ça m'enthousiasme profondément. Mais quand on parle d'une idée qui nous fait avancer, je pensais à quelque chose qui nous dépasse un peu, qui n'est pas quelque chose qui est de l'ordre de notre propre petit personnage et de ma création un petit peu nombriliste, quoi.
Dans votre chanson Van Gogh, Alex Baupin, il y a cette phrase « La tristesse durera toujours ». On dit que c'est sa dernière phrase avant de mourir.
Sur 10 ans.
Oui. Est-ce que vous le pensez ?
Oui, je le pense au sens où lui le pensait, enfin, d'après, parce que dans cette chanson, je mets un extrait de « À nos amours » dans lequel Piala explique cette phrase. Et il dit que quand Van Gogh meurt en disant « la tristesse durera toujours », on pense que c'est lui qui est profondément triste. Et la réalité, c'est qu'il dit « la tristesse durera toujours » à cause des gens qui l'entourent et qui trouvent que c'est le monde et les gens qui l'entourent qui sont très tristes. Lui étant imprégné par sa création et pas du tout triste en réalité. Et cette idée, je trouve que c'est une idée assez belle, ouais, effectivement. J'aimerais bien en tout cas que les gens, que le monde soit moins triste autour de moi. Et c'est en ce sens que la tristesse durera toujours. Mais moi, personnellement... Je suis un garçon assez joyeux, en fait. Je suis assez joyeux d'écrire des choses tristes, voilà la réalité.
Mais vous disiez qu'à un moment, Alex Baupin, vous écriviez des choses sinistres et les chantiez tristement. Et puis maintenant, vous êtes joyeux et vous chantez des choses tristes. Donc il y a eu un progrès.
Mais le problème, c'est que je vois que profondément, j'aime les chansons tristes. Non, le truc, c'est qu'on écrit de toute façon les albums ou les chansons qu'on a envie d'entendre. On essaye en tout cas de se rapprocher de son goût quand on écrit. Et moi, il n'y a pas à tortiller. Vraiment, ce sont les chansons tristes que je préfère. Alors, de temps en temps, ça m'amuse de danser sur des choses et des choses plus enthousiasmantes. Mais j'ai une appétence pour la mélancolie, puisque c'est le titre de votre émission. Mais pour les choses tristes, absolument évidentes et qui est presque plus innée qu'acquise, parce que c'était très jeune, ce truc-là. Je crois que quand on est mélancolique très jeune, en fait.
C'est possible.
Et je crois qu'il n'y a pas plus mélancolique que les enfants, d'ailleurs.
Ah oui ?
Moi, je crois que j'ai jamais été autant mélancolique qu'enfant. Parce qu'en plus, on s'ennuie et on n'a pas le choix de faire ce qu'on veut, on n'est pas indépendant.
Oui, on est dépendant de gens parfois discutables.
Voilà, oui, exactement. Donc ça me plongeait dans une mélancolie profonde. Maintenant que j'ai le droit de faire ce que je veux, je suis peut-être un peu moins mélancolique.
Oui, puis vous avez le droit de faire ce qui suit. Découverte par Éliane Girard, le morceau « Sexe » dans la revue « Plaisir » de Lynn Renaud au Casino de Paris en 1959. Morceau composé par Loulou Gasté pour introduire l'activité qui vous met en joie, Alex Baupin. C'est le sexe, bien évidemment.
Oui.
Il en est beaucoup question dans vos chansons. Je pense à « Baiser tout le temps » qui a été écrit par Christophe Honoré.
Oui.
Mais là, c'est l'éloge de la bagatelle sans sentiment, un peu pour fuir les démons intérieurs dans cette chanson.
Oui, c'est une espèce d'idée un peu hédoniste, en fait. Mais je suis pas le premier chanteur. Je crois que si on écoute beaucoup... Si on écoute Étienne Dao, par exemple, qui est très clairement un de mes modèles, il y a dans une majorité de ses chansons cette idée de profiter, de jouir sans entrave, enfin voilà, et sans discrimination, quelle qu'elle soit. Et oui, moi il me semble absolument évident que tant qu'on peut encore, le sexe c'est un remède à la mélancolie très très fort.
Et alors, jamais de sexe triste. Je pense à la chanson « La flemme », par exemple, « Nous faisons l'amour avec mélancolie ». Le sexe triste, ça arrive ?
Non, ça c'était des chansons que j'écrivais au début, parce que Je crois que quand on écrit au début, on écrit aussi en se référant à des modèles. Et là, c'est une chanson qui est un peu souchonienne, cette chanson, la flemme. Alors j'avais cette idée comme ça qu'on
c'est
pouvait...
C'est mignon, souchonienne.
Qu'on pouvait, c'est vrai. J'avais cette idée qu'on pouvait effectivement baiser de façon très alanguie, très 19e, vous voyez, j'imaginais comme ça, la confession d'un enfant du siècle ou un truc comme ça. Mais en réalité, moi, je sais que j'ai toujours trouvé ça très très joyeux et très très drôle.
Vous êtes très souchonien et musettien.
J'aimerais bien l'être, mais la réalité fait que je me rends compte que je le suis pas du tout finalement. Je suis peut-être plus, non pas un gros bourrin, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais l'idée qu'on puisse, j'ai cette idée qui est un petit peu idiote et un petit peu, et qui va peut-être sembler très vulgaire à beaucoup de gens, mais c'est que tant qu'on peut faire du sexe, il faut en profiter vraiment beaucoup, 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 beaucoup.
Mais Alex Baupin, pourtant, on ne peut pas le nier, le sexe est lié à beaucoup de problématiques.
Oui, bien sûr, évidemment. Ah non, mais je dis pas que tout ça est toujours facile, hein. Je dis pas que tout ça est toujours simple. Et moi, il m'arrive d'ailleurs de me comporter très très mal dans des relations. Non, mais parce que quand on a des relations sexuelles, il peut arriver qu'on se comporte mal, que on traite mal les gens, et puis ça m'arrive d'être maltraité aussi, et tant mieux.
On va voir. Là, il va y avoir une imagination qui va s'élever des auditeurs.
Oui, non, je voulais.
parce que là, vraiment, on vous imagine.
Je parlais pas de pratique sexuelle.
D'accord.
Je parlais de la façon de rencontrer des gens ou de s'en débarrasser plutôt.
Oui.
Quand je disais ça. Voilà,
d'accord.
Pour être tout à fait. Vous avez raison. Précisons les choses pour être tout à fait clair. Mais il n'en reste pas moins que je trouve. Moi, j'ai découvert ça assez tôt. Je crois que j'étais déjà un enfant très sexuel. Ça m'intéressait beaucoup. Alors, c'est pas tabou hein, de dire ça, mais
non,
c'est...
Non, pas du tout, d'ailleurs, on parle peu de la sexualité des enfants et elle existe.
Oui, oui, après, il faut faire attention quand même. Parce
non,
que,
mais attendez, je veux pas dire qu'elle existe avec les adultes, attendez.
Bien entendu,
vraiment...
non, on est tout à fait...
Je dis juste que les enfants sont sexués.
Je suis tout à fait d'accord là-dessus. Moi, la seule, idée du sexe, c'est que ça se passe entre deux personnes adultes et consentantes.
Oui.
Voilà, à partir de là, on peut faire absolument ce qu'on veut. Et je dis pas que je fais tout, mais en tout cas, ça m'a intéressé très tôt et ça m'intéresse encore. Je vais passer pour un obsédé sexuel un dimanche matin en plus sur France Inter, c'est horrible. Mais il n'en reste pas moins que c'est le cas. Voilà, c'est quelque chose qui me met en joie. Et ça m'amuse beaucoup et ça peut être très drôle. Moi, je trouve ça très très drôle le sexe.
Je recommande la chanson La Nuit Promet.
Par exemple.
La Nuit Promet d'être sale, La Nuit Promet de faire mal.
Qui raconte exactement ça, c'est une de mes chansons sexuelles, c'est vrai.
Dans un instant, on parlera à nouveau de sexe puisqu'on parlera de John Irving et d'Aladin, le temps d'écouter No Halo de Kevin Morby dans la playlist France Inter.
Hey, no, no, no.
Remède à la mélancolie sur France Inter, en compagnie d'Alex Baupin. Votre sérum littéraire est un roman de John Irving paru en 2012, à moi seul, bien des personnages. Ça vient de Richard II de Shakespeare. Oui. Je joue donc à moi seul, bien des personnages dont nul n'est satisfait. Traduction José Camoun et Olivier Grenot. Ça parle autant de littérature que de sexualité. Alex Baupin.
Ça parle beaucoup de sexualité, ça parle beaucoup de littérature. En fait, ce que j'aime beaucoup dans ce roman de John Irving, c'est que moi, John Irving, je l'ai découvert assez jeune, à l'adolescence, vers 16 ans, avec évidemment Le Monde selon Garp, Une prière pour Owen, L'œuvre de Dieu, etc. Et puis, je m'en suis détaché, un petit peu par snobisme, parce qu'il y a quelque chose chez Irving qui est quand même de l'ordre du grand roman populaire, malgré tout, et qui fait, quand on commence à avoir vers 18 ans, bon bah voilà, je disais des trucs que j'adore, hein, mais c'était mieux vu quand même d'avoir un bouquin de Duras ou de Bret Easton Ellis à l'époque que de lire du John Irving, qui est cette espèce de gros trucs, de gros romans américains comme ça. Et puis j'ai lu ceux d'après surtout, et puis à chaque fois j'avais l'impression que je n'aimais plus ça. Et c'est avec ce roman-là qui a dû paraître en 2012 ou en 2013, que j'ai retrouvé pourquoi. Pourquoi j'aimais tant ça, John Irving, et pourquoi ça m'enthousiasmait? Déjà, c'est cette espèce de frénésie de conteur presque ogresque, quoi. Il y a un truc dedans qui est vraiment, qui est presque trop, qui est presque beaucoup. Il aime beaucoup Dickens, on le
oui,
sait.
Oui, on le sent d'ailleurs.
Il y a ce truc derrière de grand auteur nord-américain. Je crois qu'il est canadien à la base.
Puis de Irving, s'adresser au lecteur, de dire, ah, je suis allé trop vite en besogne, j'y reviendrai.
Et puis d'aller dans le rocambolesque constamment, quoi. De pas hésiter, des retournements de situation extraordinaires et tout. Et autant il approchait dans Le Monde selon Garp, ce qui vraiment développe là, dans ce roman-là, cette idée de la sexualité, de la bisexualité, du fait qu'on puisse avoir le droit de pas choisir, qui est quand même une idée très moderne. Je crois qu'il a 72 ans quand il écrit ça. C'est exactement ce que des gamins aujourd'hui racontent dans des chansons, la génération qui vient après la mienne de chanteurs. Et moi, je trouvais qu'il y avait une liberté là-dedans, dans ce roman qui décrit donc l'histoire, pour aller très vite, d'un garçon qui se découvre assez tôt bisexuel, et qui est même attiré par des personnes transgenres. Et la façon dont il le raconte, je trouve qu'il y a une liberté là-dedans et une simplicité qui va bien au-delà de plein de... Ouais, c'est une façon de mener un combat, je trouve, extraordinaire. En plus, parce qu'on sent qu'il croit en la fiction de John Irving, quoi. Il croit en le fait de raconter des histoires. Et voilà. Et moi, je l'ai retrouvé avec ce roman-là, en fait. Je l'ai redécouvert avec ce roman-là. Pourquoi j'aimais beaucoup ça?
Est-ce que vous nous liriez un extrait, Alex Baupin?
Bah, le début, peut-être, si vous voulez.
Avec plaisir.
Je commencerai bien par vous parler de Miss Frost. Certes, je raconte à tout le monde que je suis devenu écrivain pour avoir lu un roman de Charles Dickens à 15 ans, âge de toutes les formations, mais à la vérité, j'étais plus jeune encore lorsque j'ai fait la connaissance de Miss Frost et me suis imaginé coucher avec elle. Car cet éveil soudain de ma sexualité a également marqué la naissance tumultueuse de ma vocation littéraire. Nos désirs nous façonnent, il n'a même pas fallu plus d'une minute de tension libidinale secrète pour désirer à la fois devenir écrivain et coucher avec Miss Frost, pas forcément dans cet ordre d'ailleurs.
Miss Frost, c'est la bibliothécaire.
Exactement.
Mystérieuse.
Dont on apprendra qu'effectivement, elle cache un mystère. Et puis, dès le début, il parle de Dickens. Enfin, je trouve que les débuts de romans sont des choses très importantes, évidemment. Mais alors, je trouve que John Irving, il a une façon de les commencer à chaque fois qui donne envie. Alors après, en fonction de s'il est en forme ou pas, ça peut aller plus ou moins bien. Mais celui-là, je l'aime beaucoup. Voilà. Il y a quelque chose là-dedans qui est très enthousiasmant, je trouve.
À moi seul, bien des personnages, John Irving.
I call mama. She was so happy she cried. She wants you to have her wedding gown. It's white lace.
Yeah, Osgood, I can't get married in your mother's dress. She and I, we are not built the same way.
We can have it altered.
Yeah, no, you don't. Osgood, I'm gonna level with you. We can't get married at all.
Why not?
Well, in the first place, I'm not a natural blonde.
Doesn't matter.
I smoke. I smoke all the time.
I don't care.
Well, I have a terrible past. For 3 years now, I've been living with a saxophone player.
I forgive you.
I can never have children.
We can adopt some.
But you don't understand, Osgood. I'm a man.
Well, nobody's perfect.
L'une des plus savoureuses répliques du cinéma, 1959. Certains l'aiment chaud de Billy Wilder avec Marilyn Monroe, Tony Curtis et Jack Lemmon. Et Alex Baupin, je vous laisse remettre en contexte qu'on vient d'entendre pour les auditeurs qui ne parlent pas anglais.
Bah, on est à la fin du film. Jack Lemmon et Tony Curtis, pour échapper à des gangsters, se travestissent et se font embaucher dans un orchestre de femmes. Tony Curtis tombe amoureux de Marilyn Monroe et Jack Lemmon se fait draguer par un milliardaire qui s'appelle John Osgood, oui. The Third, je crois, un truc comme ça, voilà, qui à la fin l'emmène en bateau. bateau. Donc là, ils sont dans un bateau, ils partent et Jack Lemmon essaie de lui expliquer que ça ne peut pas arriver entre eux sans lui dire qu'il est un homme. Donc il lui explique qu'il n'est pas une vraie blonde, je crois. Il lui explique
qu'il
peut pas avoir d'enfant. Et il finit par lui dire, bon, il enlève sa perruque, je crois, dans la scène. Ouais. Hein, il finit par lui dire, well, I'm a man, je suis un homme. Et l'autre lui répond, nobody's perfect, personne n'est parfait. Et vous me demandiez une réplique, vous me demandiez une citation qui permet de lutter contre la mélancolie. Je trouve que c'est vraiment la plus belle façon de dire à quelqu'un que peu importe, que quand on a envie, et voilà, vous avez remarqué, il y a une petite thématique quand même depuis le début de notre remède à la mélancolie.
C'est pour ça que j'ai mis ces remèdes à la suite, puisque j'aime bien qu'il y ait une cohérence.
On tourne quand même autour de quelque chose. Mais il paraît en plus que Billy Wilder et Diamond, je crois qu'était son scénariste, ont longtemps cherché la réplique finale.
Oui.
C'est pas grave, enfin, ils avaient plein de trucs. Puis ils ont fini par mettre Nobody's Perfect en se disant, on trouvera mieux.
Oui.
Ils n'ont pas trouvé mieux et ils ont laissé. Et ça dit tellement tout que j'aime bien cette idée aussi que de temps en temps, le hasard finit par donner des choses historiques. Je trouve ça très très beau comme idée.
Dégagez le bazar et vous allez voir ce que vous allez voir. Venez applaudir, acclamer la superstar. Fêtez ce grand jour, clochette et tambour. Venez adorer l'idole, Prince Ali, sa seigneurie, Ali Ababa. À genoux, prosternez-vous, soyez ravis. Pas de panique, on se calme. Criez vive Ali Salam. Venez voir le plus beau spectacle d'Arabie.
On entend votre premier antidote musical, Alex Baupin, le morceau Prince Ali figurant sur la bande originale du long métrage d'animation des studios Disney Aladdin sorti en 92, chanté en anglais par Robin Williams et en français par Richard Darbois, qui double aussi Bill Murray. Une chanson que vous avez d'ailleurs reprise sur l'album collectif We Love Disney en 2013.
Ah ouais, j'étais hyper content qu'on me propose. En fait, on me proposait de reprendre une chanson de Disney. Et alors, à un moment donné, je sais pas pourquoi, il m'avait proposé la chanson de la petite sirène. Je disais, bon, je quand même pas tout d'une petite sirène, un peu des fois, mais quand même. Et c'est moi qui leur ai dit, moi je veux bien le faire à une condition, c'est si je peux reprendre Prince Ali de Aladdin. Ils m'ont dit oui. Et j'étais très 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 heureux. Je sais pas si je l'ai repris correctement, parce que j'étais un génie un peu plus dépressif que pouvait l'être Williams ou Richard Darbois. Mais j'ai adoré faire ça. C'est une de mes chansons préférées, en fait. Parce qu'il y a là-dedans tout le musical à l'américaine. Tout ce qu'il peut y avoir de triomphal et de triomphant dans ces musiques-là, qui sont vraiment très américaines, pour le coup. Et à chaque fois que, voilà, je sais pas, je peux possiblement, Aladdin aussi un des dessins animés produits par les studios Disney que je préfère. Je trouve qu'il y a dedans, à cause de l'aspect musical, hein, et à cause de l'aspect très cartoonesque du génie, il y a dedans quelque chose qui emporte vraiment le morceau, quoi. Bon, il y a un problème, c'est la chanson Ce rêve bleu, qui est vraiment abominable, qui est vraiment sirupeuse à souhait. Pour moi, c'est très très dur, ça.
Je suis sûr que vous choquez beaucoup de gens, Alex Baupin, en
disant
ça.
Mais tant pis. Mais alors, tout le reste, pour moi, et toutes les apparitions du génie. J'ai vu la comédie musicale à Los Angeles l'année dernière, d'après Aladdin. Et c'est à la fois très très kitsch et à la fois formidablement enthousiasmant. Enfin, moi, ça me replonge dans un état d'enfance extraordinaire, ces trucs-là.
Tout à l'heure, vous disiez que vous aimiez beaucoup les chansons tristes et que vous écriviez les chansons que vous aviez envie d'entendre. Vous avez dit dans une interview, Alex Baupin, que les chansons désespérées des autres, vous avez fait beaucoup de bien. Mura, Bachung, Barbara. Et je crois que votre chanson préférée de toutes les chansons, c'est Pulmarine, par Isabelle Adjani, qui est quand même le summum de la mélancolie.
Oui, c'est exact. Pour plein de raisons. D'abord, parce que c'est une chanson de Gainsbourg, parce que c'est elle. Je crois qu'Adjani, possiblement, est une de mes chanteuses préférées. Je dis bien chanteuse, j'adore la voix d'Isabelle Adjani, en fait.
Très fragile.
Ouais, sur une fragilité, cristalline. En même temps, d'une justesse assez imparable, et puis avec une interprétation. Elle chante très aiguë comme Birkin, mais c'est pas du tout la même façon de chanter. Et il y a dans Pulmarine, puis c'est tout, c'est l'époque, c'est évidemment 85, elle est à ce moment-là, c'est une chanson de Gainsbourg, c'est une actrice qui chante, c'est un clip de Luc Besson, ça marque aussi une époque, on est forcément très sensible à des choses qu'on a entendues plus jeunes, parce que je crois qu'on ne reçoit jamais aussi bien la chanson et la musique que quand on est jeune. Moi, je crois beaucoup à ça.
Mais c'est vrai, peut-être qu'on les réécoute beaucoup plus aussi jeune. On a quelque chose de l'ordre de la saturation avec
parce qu'on est très lyrique, je crois. On est très enthousiaste. On perd peut-être ces choses-là au bout d'un moment. On devient, ça s'appelle peut-être la sagesse ou peut-être la vieillesse, ou un mélange des deux. Mais je crois que quand on est jeune, enfant et adolescent, on est beaucoup plus à même de recevoir les chansons pour ce qu'elles sont, des objets très lyriques en fait.
Votre second choix, Alex Baupin, c'est un succès de 1981. Et alors, l'air est très entraînant. Les paroles sont plutôt tristes. C'est Chacun fait ce qui lui plaît du duo Chagrin d'amour composé de Grégory Ken et de notre consoeur Vali qui a longtemps officié sur la chaîne avec ce fameux solo rap. On dit que c'était l'une des premières chansons
oui,
de rap.
Oui, on a souvent dit que c'était le premier truc de rap. C'est Presse Gurvic qui avait écrit ça, je crois. Il me semble que ça avait été en partie produit par Patrick Bruel. C'est fou quand même quand on y pense aujourd'hui. Et moi j'adore la chanson pour les raisons, exactement pour les raisons que vous avez évoquées. Quand on l'entend plus jeune, enfant, on a l'impression que c'est quelque chose de très entraînant, de très étonnant aussi, parce qu'on sent qu'il y a quand même derrière tout ça ce type qui raconte des choses. C'est comme l'histoire d'un type qui va au pute, hein, pour le dire un peu vulgairement. Enfin, qui va, voilà. Et quand on est jeune, on sent qu'il y a quelque chose de sulfuré. Alors plus tard, quand on la redécouvre, déjà on est heureux parce qu'on se rend compte qu'on peut toujours danser sur cette chanson. Mais surtout, on comprend le texte. Et moi, j'adore cette idée dans les chansons. Vous savez, quand plus jeune, on écoute un truc, on se dit « Mais bon Dieu, ça racontait ça, ce truc que je chantais en toute innocence, en quelque sorte. » Moi, je connaissais une copine plus jeune qui chantait 69 années du rôti. Parce qu'elle pensait « Non, mais quand on est enfant, on a tendance à faire ce genre de choses. » Parce que vous comprenez ce que je veux dire.
Oui, mais j'ai compris récemment que minuit, érotique, c'était minuit.
Ouais,
je m'étais jamais posé la question.
par exemple. Et ce genre d'épiphanie, quand on les a avec les chansons, c'est assez rigolo. Et ça, c'est une chanson typiquement là. Et puis en plus, moi, je connais un petit peu Vali, dont vous parliez. Et au Casino de Paris, dans une tournée, je me suis fait un plaisir, c'est que j'ai rechanté cette chanson. Elle est venue refaire avec moi la voix féminine. Et je pense que ça, et avoir chanté Prince Ali, c'est deux sommets de ma carrière. Après, moi, je peux arrêter, quoi.
Bon, bah alors, on l'écoute. De solitude désespérée, chagrin d'amour, chacun fait ce qui lui plaît.
Du match, j'ai des frissons, je claque des dents et je monte le son. Seul sur le lit dans mes draps bleus froissés, c'est l'insomnie, sommeil cassé. Je perds la tête et mes cigarettes sont toutes fumées dans le cendrier. C'est plein de Kleenex et de bouteilles vides, je suis tout seul, tout seul, tout seul. Pendant que Boulogne se désespère, j'ai de quoi me remplir un dernier verre. Claque, fais le verre en tombant sur le lino, je me coupe la main en ramassant les morceaux. Je stérilise les murs qui dansent, l'alcool ça grise et ça commence. Font les moutons sur le parquet.
Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez fait?
Je crois que j'ai remis la radio.
Chacun fait ce qui lui plaît, plaît, plaît.
Précipice est au bout.
Précipice, on s'en fout. Chacun fait ce qui lui plaît, plaît, plaît. Toutes les étoiles qui brillent.
Quelles ont à me dire les étoiles? 6 heures du mat, faut que je trouve à boire. Liqueur forte ou café noir. Brûle un feu rouge, police patrouille, je serre les fesses, y'a rien qui presse. 4, 5 francs maros, crie le petit chose dans le matin rouge, car mon ondine sous ses comptines. Tout près d'une poste, y'a un petit bar, je pousse la porte et je viens m'asseoir. 3, 4 patibulaires, tape le carton dans les water. Toute seule au bar, dans un coin noir, une blonde platine sirote sa fine. Elle dit champagne, je l'accompagne, elle dit 50, je dis ça me tend.
Et vous êtes rentré comment?
Dans ma voiture. Ah, il y avait toujours ma mère à la radio.
Chacun fait ce qui lui plaît, plaît, plaît.
Que de pression dans les bars.
Personne ne pousse à voir. Chacun fait ce qui lui plaît, plaît, plaît.
Légende, c'est manie.
C'est égalcomanie.
7 heures du mat, l'hôtel. Je paie, j'abrège, je fouille mes poches. Je sais, c'est moche. Son sourire rouge, son corps qui bouge. Elle fait glisser son cœur croisé sur sa peau bronzée. T'as les bas nylon qui filent sur les dodons. Ses ongles m'accrochent, tu viens chérie. Le lit qui craque et les volets claquent. Seule dans le lit, dans ses draps bleus froissés. Sur sa peau lisse, mes doigts glacés. Elle prend la pause, pense à autre chose. Ses yeux miroirs envoient mon regard. Des anges pressés dans ce bleu cassé. Me dit c'est l'heure, je leur dis quelle heure.
Et vous vous souvenez vraiment pas de ce qui s'est passé?
Non, vraiment pas.
Chacun fait ce qui lui plaît, plaît, plaît.
Sous mes pieds, il y a la terre.
Sous tes pieds, il y a l'enfer. Chacun fait ce qui lui plaît, plaît, plaît.
Mon Dieu, je peux même pas. pas jouir.
Tant pis pour toi, il faut dormir. Alors je me sauve dans le matin gris. C'est plein de jours et pas de taxi. Les chats qui se tapent, le petit ronron. Les éminents, les petits bateaux. Pour de l'âge-pelle, je me sens pas belle. Les bigoudis sont plus en plus. Mon studio, j'aspirateur. La vie des gens fait un peu peur.
Madame Pipi a des ennuis. Monsieur Papa se fait du troc. Dans les logis, les maladies. Bébé fait lui s'abouillir.
8 heures du mat, j'ai des frissons. Je claque des dents et je monte le son. Sors sur le lit de mes draps bleus froissés. C'est l'insoumis, sont mis cassés. Perds la tête, mes cigarettes sont toutes fumées dans le cendrier. Espèce de Kleenex et de bouteilles. Je suis toute seule, toute seule, toute seule. Pas dans Boulogne, c'est désespère. Je crois remplir un dernier verre. Clac, fais le verre, entendre le soleil no. Je me coupe la main, ramassant les morceaux.
Remède à la mélancolie sur France Inter avec Alex Baupin. Vous avez choisi de parler de deux œuvres d'art.
Oui.
La première, c'est le tableau de 1951, Rooms by the Sea d'Edward Hopper. Deux pièces vides avec au premier plan une porte ouverte sur la mer qui fait pénétrer un éclatant faisceau de lumière. Mmh. Pourquoi ce tableau? Puisqu'il y a quand même cette solitude, c'est ensoleillé, mais c'est toujours le vide, la solitude.
Ah, c'est simplement parce que je crois que j'aimerais bien vivre dedans. J'aimerais bien que cette chambre soit ma chambre, en fait.
Je peux vous comprendre.
Peut-être parce que je la vois rarement, mais ça, c'est un choix que j'ai fait dans ma vie. Mais j'ai l'impression que c'est une lumière du matin, en plus, qu'on voit, en l'occurrence. Disons une lumière de entre 9h et 10h30, qui est une lumière que moi, je vois rarement, puisque je travaille de façon décalée.
Vous avez une vie de patachon, comme disent les
Oui, c'est ça. En fait, je fous rien, je me lève à midi, et voilà. Non, mais très simplement, je sais pas pourquoi. Et c'est beaucoup ça avec les tableaux de lumière du matin. Ça doit être un truc qui a trait. C'est idiot de revenir tout le temps à ça, mais à l'enfance. Mais c'est très simplement, enfin, il faut aller voir le tableau évidemment, c'est pas très radiophonique un tableau, mais c'est très simplement un tableau dans lequel j'aimerais vivre, voilà. J'aimerais que ce soit ma chambre.
C'est joli.
Et y a pas grand chose de plus à dire là-dessus, je crois.
D'accord, j'accepte. L'autre œuvre d'art que vous affectionnez, Alex Baupin, ça possède une charpente métallique de 7300 tonnes et une hauteur de 324 mètres. Elle fut construite entre 1887 et 1889, j'ai l'impression d'être Julien Lepers, pour l'exposition universelle de 1889 qui célébrait le premier centenaire de la Révolution française. C'est évidemment la Tour Eiffel. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle vous évoque? Vous saviez qu'elle était destinée à durer uniquement 20 ans?
Bien sûr, évidemment, oui, ça je le savais, que finalement on l'a gardée. J'ai toujours trouvé, même enfant, la première fois que je suis venu à Paris, j'ai vu deux choses que j'avais jamais vues de ma vie. J'ai vu le TGV, qui était orange à l'époque, et on est allé à la Tour Eiffel. Et ça m'a marqué, je devais avoir 7 ans, je crois. Et je sais pas, j'adore la forme de... Je trouve que c'est une forme vraiment parfaite, la Tour Eiffel, en fait. Je trouve qu'il y a un équilibre des formes entre le premier, le deuxième et le dernier étage. C'est un dérique, hein, en réalité, c'est ni plus ni moins qu'un dérique. Un peu plus harmonieux, parce que les arches sont quand même jolies et tout ça. Je trouve qu'il y a là-dedans quelque chose de... Et puis évidemment, c'est le symbole de Paris, la France, machin, tout ça. Mais c'est pas que ça, à chaque fois que je... C'est toujours cette idée de pas être blasé. À chaque fois que je passe, par exemple, que en taxi la nuit devant ou la journée, ou chaque fois que je l'aperçois ici à la maison de la radio, on peut l'apercevoir. Ça me crée une émotion qui est un peu ridicule, mais qui doit être de l'ordre de l'émotion que ressent le New-Yorkais quand il voit l'Empire State Building. Ou voilà, c'est tout simplement quelque chose. C'est par ces monuments-là qu'on a l'impression d'appartenir à un endroit, à une ville ou à un pays. C'est tout simplement cette émotion-là, presque, pas chauviniste, mais presque pas patriote non plus, mais c'est ce sentiment d'appartenance qu'on a par ces choses-là, en fait.
Le comté, vous l'aimez? Moi aussi.
Oh, le comté, on l'aime sans compter.
Vous la connaissiez, cette réclame de 1986?
Oui, c'est le slogan, le comté, on laisse en comté.
Pour votre plat du dimanche soir, Alex Baupin, c'est le gratin de coquillettes au comté. Donnez-nous la recette, je vous en supplie.
Ah bon, non, mais c'est très très simple, vous faites chauffer des coquillettes.
Non,
Faites chauffer des coquillettes, vous râpez du comté, si possible du 24 mois, parce qu'il est meilleur, il a plus de goût.
Dans la casserole, une fois qu'on a égoutté les pâtes?
Attendez, vous allez trop vite. Un œuf, de la crème fraîche, du comté. On mélange tout ça avec les coquillettes,
bon,
bim bim bim, on met tout ça dans un plat à gratin, on met dans le four, c'est très gras, c'est très mauvais, c'est très bon en même temps, c'est très régressif évidemment, c'est encore une fois de la bouche d'enfance, mais c'est très très bon. Et vous avez réussi quand même à passer une pub sur le Comté qui est à nouveau sexuelle, c'est incroyable cette émission.
Alors où est-ce que vous avez vu de la sexualité?
Vous entendez la meuf au début de cette pub qui fait le Comté, on sent qu'elle fait autre chose que de manger son Comté quand même.
Mais je veux dire, l'extase qu'on a quand on goûte des plats est un peu similaire à l'extase sexuelle, j'imagine.
Là c'est plus de l'ordre du réconfort vraiment lié à l'enfant, je crois. C'est pour ça que je disais un gratin de coquillettes le dimanche soir, moi je suis souvent déprimé le dimanche soir, même si je suis pas obligé de me lever le lundi matin, le dimanche soir, je trouve que c'est terrible le dimanche soir.
Oui, c'est vrai.
C'est vraiment le soir où on sait qu'on va mourir, le dimanche soir, je trouve. on en prend conscience vraiment. Et donc, se faire de la bouffe un peu comme ça, junk, un peu réconfortante. Alors vraiment, le gratin de coquillettes au Comté, je vous jure, c'est sale. Hein. C'est vraiment pas bien. On sent que c'est pas bien, mais ça fait tellement de bien.
C'est vrai que ça a l'air assez sale.
Oui, c'est sale.
Régressif, subversif même.
Exactement, oui. Et puis c'est vraiment de la bouffe de rien. C'est vraiment pas de la bouffe. C'est pas faire de la cuisine. C'est râper du Comté dans des coquillettes avec de la crème. Enfin, c'est nul.
C'est nul. Mais moi, je propose qu'on termine sur un truc nul et réjouissant.
Ah, je suis d'accord.
Merci beaucoup, Alex Baupin, d'être venu dans cette émission. On peut écouter sur toutes les plateformes le titre « Cours camarade », extrait de votre prochain album « Pas plus le jour que la nuit » qui sortira à l'automne et vous serez en concert à l'Olympia le 20 novembre prochain. Chers auditeurs, la programmation musicale, les remèdes sont comme toujours sur le site de l'émission. J'espère que votre âme a le même panache qu'un nombre imaginaire pur. Je vous retrouve dimanche prochain à 10h.